Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Coup de théâtre aux États-Unis, le président Trump a limogé le secrétaire d'État Rex Tillerson qui revenait juste ce matin de sa tournée africaine.
Je ne suis pas surpris parce que depuis un certain temps, M. Tillerson a montré qu'il n'est pas d'accord avec le président, par exemple, sur le commerce extérieur.
En Guinée, Conakry, toujours paralysé par des heurts sociaux et politiques. La justice béninoise tranche dans le procès des faux médicaments. 4 ans de prison pour les patrons accusés. Attaque meurtrière au Niger, un groupe d'assaillants a tué 3 gendarmes.
Donc c'est pas la première fois que des éléments venus du Mali s'attaquent à des positions isolées des forces de défense et de sécurité du Niger.
Réaction après le lancement de la plateforme de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Et dans la Minute Éco, l'Union européenne débloquera 61 millions de dollars pour aider les villes touchées par l'immigration clandestine en Libye. Et un avant-goût des 8e de finale de la Ligue des Champions dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Il a suffi d'un seul tweet pour désigner un nouveau patron pour la diplomatie américaine. Le président Donald Trump a annoncé le départ de Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'État par Mike Pompeo, le directeur de la CIA, qui est lui-même remplacé par une femme, Abdourahmane Dia.
Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'État. Il fera un travail fantastique. Merci à Rex Tillerson pour ses services, a tweeté le président Trump qui annonce en même temps que Gina Haspel sera la directrice de la CIA, devenant ainsi la première femme à diriger cette agence des renseignements. Selon un haut responsable américain, Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord. L'annonce d'une rencontre prochaine entre le locataire de la Maison-Blanche et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été faite la semaine dernière au moment où Rex Tillerson était en tournée africaine. Il a écourté sa visite pour revenir à Washington. Peu avant son départ ce matin pour la Californie, le président Trump a dit aux reporters qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde avec Rex Tillerson sur des questions comme l'accord sur le nucléaire iranien.
Donc Rex Tillerson a été relevé de ses fonctions, une situation qui laisse perplexe beaucoup de Tchadiens. La promesse faite au Tchad de lever l'interdiction des visas d'entrée aux États-Unis serait-elle l'une des raisons de son limogeage? André Komadjingar nous fait le point de N'Djamena.
Selon des sources indépendantes, la déclaration de Rex Tillerson à propos de la levée de la décision de Donald Trump au sujet de l'inscription du Tchad sur la liste noire serait à l'origine de son départ. Pour l'ambassadeur de la paix auprès de la francophonie et de l'Union africaine, Abdourahmane Diasnabaï, les raisons de son limogeage sont ailleurs.
Pendant son voyage, j'ai constaté que sur le dossier coréen, j'ai fait une réaction qui n'a pas plu. Finalement, le président a décidé de limoger.
Pour le politologue Évariste Garlem-Toldé, les promesses faites sur les relations bilatérales et sécuritaires entre les deux pays restent toujours d'actualité.
Un ministre qui voyage, c'est parce que c'est le président de la République qui l'envoie en mission. Donc il n'est pas venu décider de lui-même. Donc tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser.
André Kotmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
Alors ce départ de Rex Tillerson du département d'État arrive comme une surprise. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
Je ne suis pas surpris parce que depuis un certain temps, M. Tillerson a montré qu'il n'est pas d'accord avec le président. Par exemple, sur le commerce extérieur, il était contre sur la décision d'augmenter les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Aussi, quand le président a annoncé qu'il va parler avec le chef d'État de Corée du Nord, Tillerson était assez négatif. Mais surtout sur la question de la Russie. Le président Trump ne veut absolument pas critiquer la Russie, il ne veut pas critiquer Poutine. Mais hier, en Afrique, M. Tillerson a dit des très mauvaises choses sur la Russie pour la question de l'empoisonnement en Angleterre. Donc ça, c'était le goutte d'eau qui a fait déborder la vase pour le président.
Mais ça fait longtemps qu'on disait qu'il allait partir. Celui qui l'a remplacé, Pompeo, qu'est-ce qu'il lui a apporté de nouveau alors?
Well, Pompeo est tout à fait sur la même longueur d'onde de Donald Trump pour tous les sujets. Et il est d'accord pour ne pas critiquer la Russie, malgré le fait qu'il était chef de la CIA. et la CIA a dit que la Russie a fait l'ingérence dans nos affaires électorales. Pompeo est tout à fait sur la même longueur d'onde de Trump. Il est d'accord pour le contre-terrorisme, d'accord sur le commerce extérieur. Donc, ils seront tout à fait compatibles.
Pompeo lui-même est remplacé par une femme, une première à la tête de la CIA.
Ça, c'est une très bonne chose. Je félicite président Trump d'avoir fait ça. C'est une dame très capable. C'est nécessaire maintenant de faire avancer les femmes.
Quand même, ça fait beaucoup de départs de partisans de Trump depuis qu'il est au pouvoir, en un an.
Oui, malheureusement, Trump gère le gouvernement dans une façon très chaotique. C'est une tragédie.
C'était Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. En République démocratique du Congo, dans le nord-est du pays, au moins 30 personnes ont été tuées la nuit dernière dans plusieurs villages de l'Ituri. La région est le théâtre de violences depuis décembre. Yakuba Ouedraogo.
Plusieurs villages du territoire de Djougou ont été ciblés. Willy Pilo Moulendro, chef de la localité de Baïma Nord, affirme que dans le village de Djo, les assaillants ont tué 10 personnes. À Gbi, il y a eu 10 morts et à Takpa, 19 personnes abattues, faisant au total 39 morts. La radio Okapi avance un bilan de 41 morts. L'attaque a eu lieu juste après le départ du ministre de l'Intérieur, Henri Mova. Il est sur le terrain et on continue à tuer. S'est indigné le député Grégoire Louzengue, porte-parole du groupe des parlementaires de l'Ituri, qui parle de 200 000 déplacés suite à la reprise des violences. L'armée congolaise assure qu'il n'y a pas eu massacre à Djo et que la situation est sous contrôle. D'après le lieutenant Jules Longongo, porte-parole militaire basé en Ituri, un conflit entre Ema et l'Hindou entre 1999 et 2003 avait fait des dizaines de milliers de morts et provoqué l'intervention d'une force européenne, Artemis.
En Guinée, après une journée ville morte lundi, des manifestations de partisans de l'opposition ont lieu dans les villes minières de Boké et Kamsar, riches en aluminium, perturbant certaines livraisons de minerais. Des jeunes ont également à nouveau érigé des barricades et brûlé des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne, Conakry. De nouvelles manifestations et une troisième journée ville morte sont prévues mercredi dans la capitale. Premier verdict sur l'affaire de faux médicaments au Bénin. 4 ans de prison pour 5 patrons de grossistes pharmaceutiques qui étaient accusés de trafic de faux médicaments. Plus de 150 tonnes avaient été saisies lors d'une prise spectaculaire. Le point avec Ginette Fleur-Adandé.
Ce mardi fut la consternation totale dans le rang des parents, collaborateurs et amis. Le tribunal était fortement militarisé, toutes les entrées bloquées, l'accès interdit à la presse, exercice illégal de pharmacie et de vente de médicaments falsifiés. Ce sont là les délits retenus contre les 5 grossistes. Le directeur de la pharmacie a été purement et simplement relaxé. La justice a aussi ordonné la destruction des stocks saisis et qui s'évaluent à plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques. Cette affaire défraie la chronique depuis le jour où la police, en perquisitionnant le domicile de l'honorable Ataourène Ro et quelques-uns de ses entrepôts a pu réunir plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques montrant l'implication du député dans la vente des médicaments illicites. Les avocats des grossistes comptent bien faire appel pour que ces grossistes puissent retrouver leur liberté. À Cotonou, même si certains crient leur soulagement, d'autres estiment que la vraie justice n'a pas été rendue. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VO Afrique.
Au Togo, les praticiens hospitaliers du secteur public de la santé observent une grève générale à travers le pays avec seulement le fonctionnement à minima. Les morgues, les services de la caisse et les urgences seront fermés. Pas d'entrée ni de sortie dans tous les centres hospitaliers du pays. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo réclame la libération du vice-doyen de la faculté de médecine de l'université de Lomé et de 2 étudiants en médecine interpellés dans le cadre d'une affaire d'allégations de manipulation des notes des étudiants. En Côte d'Ivoire, l'opposition a appelé à suspendre les premières élections sénatoriales du pays. Fixées au 24 mars, elle juge leur tenue anticonstitutionnelle et source de tensions sociales. Pascal Affine-Guessant, le chef de file de l'opposition ivoirienne, affirme avoir engagé une action auprès de la Cour suprême, lui demandant de suspendre la tenue des sénatoriales parce qu'elles sont organisées par la commission électorale, je cite, une institution déclarée illégale par la Cour africaine des droits de l'homme. La campagne des sénatoriales doit démarrer le 19 mars pour 3 jours. Le groupe de soutien Bring Back Our Girls est mis en place après l'enlèvement de masse de Chibok au Nigeria, a accusé le gouvernement d'incompétence et de négligence après ce nouvel enlèvement par Boko Haram de plus de 100 écolières dans le nord-est, à Dapchi, dans l'état de Yobe, le 19 février dernier. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré privilégier la négociation pour la remise en liberté des filles au lieu d'actions militaires. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de visionnaire du parti au pouvoir, a clarifié ce dernier. Il a indiqué avoir annoncé un titre en Kirundi, la langue nationale. Aucune traduction officielle en français n'ayant été fournie. Ce titre avait été traduit par la presse, par guide suprême éternel, certains responsables burundais parlant eux de guide permanent. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilidico.
En Libye, l'Union européenne débloquera 61 millions de dollars pour aider les villes touchées par l'immigration clandestine. Ce financement entre dans le cadre d'un programme qui sera lancé par le Fonds d'affectation spéciale d'urgence de l'Institution pour l'Afrique. L'UE a déjà engagé 292 millions de dollars via le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique afin d'aider la Libye à se redresser et faire face aux défis de l'immigration. L'OCDE vient de revoir ses prévisions de croissance à la hausse pour l'ensemble du monde. Elle estime que l'économie mondiale devrait croître de 3,9% en 2018 et 2019. L'Organisation de coopération et de développement économique met cependant en garde contre le protectionnisme après l'annonce par le président américain Donald Trump de taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. L'Afrique du Sud envisage d'émettre un eurobond de 3 milliards de dollars pour profiter des taux relativement bas et de la forte demande des investisseurs. Le pays, dont la dette extérieure représente moins de 10% du total de ses emprunts, avait émis un eurobond de 2,5 milliards de dollars en septembre dernier. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 1,3% en 2017, ce qui représente près du double du taux enregistré en 2016.
D'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, depuis le match nul et vierge de l'aller en Andalousie, 0-0 contre le FC Séville, Manchester United qui doit forcément l'emporter sur son terrain ce soir. Manchester a retrouvé de sa solidité avec 3 victoires de rang en championnat, dont 2 contre des grosses cylindrées comme Chelsea et Liverpool. Le club anglais tenant du titre de l'Europa League n'a plus atteint les quarts de finale de la Champions League depuis la saison 2013-2014. Quant à l'AS Rome, la tâche est un peu plus ardue puisque l'équipe italienne doit renverser la vapeur après un revers 2-1 en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk. L'unique fois où le Shakhtar avait atteint les quarts de finale, c'était en 2011 et c'était en éliminant la Roma justement.
Et les derniers huitièmes de finale demain ?
Le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux match nul 1-1, accueille Chelsea. Chelsea avait terminé le premier match frustré par l'égalisation en toute fin de rencontre de Lionel Messi. L'autre rencontre est beaucoup moins attrayante ce mercredi sur le papier. Grâce à des doublés de Thomas Müller et Robert Lewandowski, le Bayern Munich a déjà mis KO les Turcs de Beşiktaş et a priori les Bavarois qui n'ont rien à craindre après leur victoire 5-0 du match aller.
Nicolas, préparation du Maroc pour la Coupe du Monde 2018.
Le jeune attaquant Ayoub El Kaabi, révélation du CHAN 2018, a été convoqué pour la première fois avec l'équipe marocaine qui affrontera en match amical la Serbie et l'Ouzbékistan en vue du Mondial 2018 en Russie. Âgé de 24 ans, El Kaabi, avec un record de 9 buts lors du CHAN et quelques actions de classe mondiale, eh bien cet attaquant du RS Berkane avait été désigné joueur de la compétition lors du CHAN.
Et enfin, le championnat de basket nord-américain.
Houston a retrouvé sa star James Harden, laissé au repos lors du match précédent, et a dominé 109 à 93 San Antonio, qui a un peu plus compromis ses chances de participer aux playoffs. Du coup, le champion NBA en titre, Golden State, qui a décroché son billet pour les playoffs sans jouer à la faveur de cette défaite de San Antonio. On rappelle que 4 équipes ont déjà leur billet en poche pour les playoffs qui débuteront le 22 avril. Houston, Golden State à l'ouest, Toronto et Boston à l'est.
Merci Nicolas Pinault.
19h TU. Pour participer, c'est très simple.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Niger, trois gendarmes ont été tués lundi soir dans une attaque dans la région de Tillabéri, une zone frontalière du Mali. Fin octobre dernier, 12 gendarmes nigériens ont été tués dans cette même région, tout comme le 4 octobre, où 4 soldats américains et 4 militaires nigériens ont péri dans une embuscade. Yacouba Ouédraogo a joint Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement et spécialiste des questions de sécurité au Sahel.
En dehors de cette attaque, il y a eu une autre dans la localité d'Abala où un civil, selon nos informations, a trouvé la mort. Donc ce n'est pas la première fois que des éléments venus du Mali s'attaquent à des positions isolées des forces de défense et de sécurité du Niger le long de cette frontière avec notre voisin Mali.
Cette nouvelle attaque a visé un poste de gendarmerie dans le village de Goubé, à seulement 40 km de Niamey.
Si vous vous rappelez, la prison de Koutoukale se trouve à 50 km de Niamey, elle a été aussi attaquée. Alors, ça ne surprend pas aujourd'hui que ces éléments viennent jusqu'à 30 km de Niamey pour perpétrer les attaques. Il se trouve que les éléments terroristes qui sont le long de la frontière entre le Niger et le Mali ont une capacité d'infiltration des populations, des villages environnants de cette frontière pour mener des attaques. El Sahraoui a compris qu'il peut utiliser les communautés locales. Il recrute des djihadistes au sein des communautés locales du fait qu'on partage les mêmes communautés entre le Mali et le Niger.
Qui sont ces groupes armés qui opèrent dans cette région du Tillabéri là?
Vous avez le Mujahou déjà, qui est une branche des éléments de El Sahraoui, puisque El Sahraoui était d'abord un élément du Mujahou. Il a connu beaucoup de jeunes de certaines communautés Peul et Touareg au sein du Mujahou avant de créer l'État islamique du Grand Sahara. Donc ce sont ces éléments-là qui mènent la vie dure à nos forces de défense et de sécurité.
Le 4 octobre dernier, 4 soldats américains et 4 militaires nigériens ont été tués dans une embuscade dans cette même région de Tillabéri. Et ce n'était pas la première fois. Pourquoi jusque-là, cette région ne semble pas sécurisée, malgré les attaques à répétition?
Il y a eu des séries d'attaques depuis l'embuscade qui a pris la vie à plusieurs soldats américains et des soldats nigériens. Nous, on pensait que les autorités nigériennes, américaines et leurs partenaires avaient appris la leçon, c'est-à-dire c'est de maximaliser leurs efforts sur cette partie de la frontière entre le Niger et le Mali. Mais on a encore pensé qu'avec la création du G5, le G5 allait monter en puissance pour aller de l'avant et neutraliser tous les éléments djihadistes. Il n'y a pas eu cette réaction du G5, il n'y a pas eu cette réaction des partenaires du Niger, notamment les États-Unis, la France, pour essayer d'appuyer les efforts du Niger sur cette bande-là.
On se rappelle aussi que les autorités nigériennes ont interdit la circulation des engins à deux roues dans cette région-là. Ce n'est pas suffisant.
C'est pas suffisant parce qu'ils cherchent toujours des postes de sécurité isolés où ils ont un petit nombre de soldats. Donc ils n'attaquent pas vraiment des casernes où il y a assez d'éléments qui peuvent riposter et qui peuvent leur faire mal.
Notre confrère Moussa Aksar joint à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a mis sur pied un mouvement pour le soutenir à la présidentielle prévue pour décembre 2018. Dans le même temps, l'UDPS se prépare à remplacer le défunt Étienne Tshisekedi pour la même raison, pendant que le MCL de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Vital Kamerhe et le PALU d'Antoine Gizenga se rapprochent. Eddy Issango a fait réagir le président de la Coalition des Congolais pour la Transition, Emery Damien Kalouira.
Tous ceux de l'opposition qui adhèrent à ce processus électoral qui est fraudé d'avance, qui est truqué d'avance, ce sont des gens qui veulent soutenir le renforcement du régime M. Kabila avec son seuil fabriqué de toutes pièces qu'ils appellent la loi sur le seuil de la représentativité. Aujourd'hui, aucun acteur politique sérieux ne peut souscrire au processus électoral défini dans les conditions actuelles. Et la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila reste campée sur ses positions. Il n'y aura jamais de vraies élections dans le pays avant une transition qui balise le terrain, des vraies élections qui garantissent vraiment la transparence et l'égalité des chances. Et donc, ici, pour s'arrêter sur ces gens-là, ils ont sûrement des accords secrets avec M. Kabila, parce que tel que ce parti, une élection ramenée à un seul tour en 2011 pour barrer à l'opposition, je ne vois pas avec quelle magie ces opposants corrompus par M. Kabila peuvent prétendre gagner cette élection. Une élection organisée avec un seuil de représentativité qui ne profite qu'au seul PPRD, je ne vois pas quel opposant peut prétendre la gagner.
La crise en RDC, c'est dû à la non-tenue des élections. Il y a eu un dialogue, il y a eu un accord qui a été signé. Il faut que cet accord soit appliqué, c'est-à-dire arriver à organiser quand même les élections.
L'accord était déjà mort-né et cet accord a déjà été enterré. D'ailleurs, hier, M. Lambert Mende se confiait à l'un de vos confrères à Kinshasa. Il s'est réjoui de voir qu'ils ont réussi à ramener tout le monde dans un processus déjà corrompu d'avance. Le peuple congolais ne sera libéré qu'après une transition qui va écarter le système de M. Kabila et baliser le terrain pour de vraies élections. La machine électorale actuelle a pour objectif de favoriser les fraudes au profit du PPRD.
Appeler à une transition sans Kabila, n'est-ce pas, là, lui faire la part belle et l'aider à se maintenir au pouvoir.
Les deux patrons de la CENI, la centrale électorale, sont tous les deux les amis de M. Kabila et ils exécutent les ordres de M. Kabila. Vous savez également que le Conseil constitutionnel qui a maintenu M. Kabila au pouvoir à travers des arrêts tronqué est composé des amis de M. Kabila. Et par conséquent, il faut être idiot pour espérer une élection transparente dans des conditions pareilles. Le gouvernement du Botswana a demandé au monde entier d'user de toutes les influences possibles pour évacuer M. Kabila afin de favoriser le retour de la paix, de la démocratie et de la justice en République démocratique du Congo.
Emery Damien Kalouira, président de la Coalition des Congolais pour la transition.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Centrafrique, les anti-Balaka et les 3R exigent du gouvernement de déployer ses forces dans la région de Nana Mambéré avant de déposer les armes. La violence a nettement diminué depuis l'arrêt des hostilités le 15 décembre 2017. Le retour de la population civile se fait timidement, mais la paix reste fragile. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint le coordinateur des actions en Afrique centrale auprès du Centre pour le dialogue humanitaire, Patrick Kishenman.
Dans la Nana Mambéré, c'est une zone de passage du nord, qui vient du Tchad, où on a les populations d'éleveurs peuls qui descendent avec leurs troupeaux de bétail dans le cadre de leurs activités de pastoralisme, à la recherche de pâturage. Ces populations se faisaient voler du bétail parfois. Le groupe 3R, pour les défendre, s'est armé. Et puis chaque fois qu'il y avait du bétail qui était volé, on n'avait pas d'affrontement direct entre les anti-Balaka et les 3R, mais on avait des représailles d'une partie sur une autre partie, et puis les représailles se faisaient sur la population civile. Depuis la signature de l'accord, on n'a plus ces attaques de villages ou plus le vol de bétail qui est significatif.
Est-ce que le gouvernement peut déployer facilement ses fonctionnaires dans cette localité?
C'est petit à petit d'avoir les vaccinateurs du ministère de la Santé qui se déploient dans la zone pour vacciner les populations, parce que ça fait plus de 3 ans en tout cas que les enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite, mais aussi contre la rougeole et toutes autres sortes de maladies. Que les humanitaires ne vont pas encore dans cette zone, encore toutes notifiées en rouge, et ça n'aide pas aux vaccinateurs du ministère de la Santé ni aux organisations humanitaires d'aller se déployer dans toute cette région. Donc il faut regagner petit à petit la confiance.
Quels sont les risques possibles?
Comme on n'a pas la présence de l'État, on peut très bien avoir, malgré que les groupes soient de bonne foi, des éléments incontrôlés qui circulent et puis qui pourraient s'attaquer aux populations. Et puis du coup, ça pourrait entraîner des représailles. Et la paix est encore très fragile dans tout cet endroit.
Y a-t-il un conflit quelconque qui peut remettre en cause l'accord qui tient toujours?
On a encore d'autres groupes armés qui sont là. Il y en a un justement qui circule dans la région et qui est un groupe tout récent, le groupe Siriri. Et on ne sait jamais si tout à coup il y a une action qui se passe, un vol de bétail ou une attaque contre un village. Ça pourrait fragiliser complètement les accords entre les deux groupes 3R et anti-Balaka. C'est pour ça que le déploiement des forces armées centrafricaines permettrait de stabiliser la situation.
Est-ce que la situation dans le reste du pays n'affecte pas cette amélioration constatée dans cette localité?
L'accord qui a été trouvé entre les deux groupes est le fruit d'un long travail de négociation qui a été initié par le Centre pour le dialogue humanitaire. Et on arrive à avoir un accord de paix très localisé. lors du forum de Bangui en 2015, les 14 groupes signataires ont exprimé la volonté d'avoir la paix et de stabiliser la situation. Des promesses qui ont été faites, de désarmement notamment. Le programme DDR prend son temps. Et plus le temps passe, plus les groupes se fragmentent, ce qui rend la situation de plus en plus complexe à l'intérieur du pays.
Patrick Kishenman, coordinateur des actions en Afrique centrale auprès du Centre pour le dialogue humanitaire.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sims Loumami à la mise en onde, Zuber Altaïb à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le département d'État a classé Ansarul Islam comme groupe terroriste international expressément désigné. Cette désignation impose des strictes sanctions aux ressortissants étrangers ayant commis des actes de terrorisme ou posant un risque considérable d'en commettre et qui menacent la sécurité des ressortissants américains, la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis. Cette désignation vise à empêcher Ansarul Islam d'avoir accès à des ressources qui lui permettraient de planifier et de commettre de nouvelles attaques terroristes, entre autres conséquences, tous les avoirs du groupe et participation à des avoirs assujettis à la juridiction des États-Unis sont bloqués et il est en principe interdit aux ressortissants américains de se livrer à des transactions avec ce groupe. Ansarul Islam est un groupe terroriste basé au Burkina Faso. Le groupe a lancé de nombreuses attaques dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Mali, y compris une attaque contre une escouade de l'armée qui a tué une dizaine de soldats, l'une des attaques les plus meurtrières commises contre l'armée burkinabé. Ansarul Islam a aussi lancé une attaque en février 2017 contre deux commissariats de police du pays et serait responsable du meurtre en mars 2017 d'un directeur d'école et d'un autre homme à Koufayel au Burkina Faso. L'action d'aujourd'hui informe le public américain et la communauté internationale qu'Ansarul Islam a commis ou présente un risque important de commettre des actes de terrorisme. Les désignations des terroristes expose ou isole des organisations et personnes et leur bloque tout accès au système financier américain. En outre, ces désignations peuvent appuyer les activités de force de l'ordre des États-Unis et d'autres gouvernements. Les États-Unis restent déterminés à éradiquer tous les groupes terroristes, y compris à son rôle islam où qu'ils se cachent.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.